Monstrueusement humain, le podcast qui risque de te donner le goût de toi. Sois la bienvenue, créature au grand cœur. Approche-la. Sache qu'ici, tu vas peut-être te réconcilier avec qui tu es vraiment. Oui, en fait, si tu pouvais laisser là parler maintenant tout haut tes petites voix intérieures, tes ressentis, tes visions, que parfois tu kifferais de prendre, mais qu'en fait tu tais, tu juges et puis parfois tu sabotes. Parce qu'a priori, ça n'a pas l'air de rejoindre le plus grand nombre. Alors moi, j'ai un rêve, c'est celui de participer à l'effondrement du mur de la norme. C'est un peu mon mur de Berlin à moi. Alors je dis stop, stop à cette recherche constante de l'approbation du monde pour valider notre existence. Stop à cette normopathie assassine. Bonjour les monstrueusiens, c'est la fille de joie, bienvenue dans Monstrueusement humain. Aujourd'hui, une nouvelle petite papote. Aux côtés d'une femme extrêmement passionnée. Une femme qui œuvre de tout son cœur auprès des jeunes et de leur orientation. Alors, belle écoute à toi. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nouvelle petite papote où j'accueille une femme que je connais, on va dire, pas depuis si longtemps que ça dans ma vie, mais qui a voulu franchir le pas de la petite papote. Alors, bienvenue, Élodie Guérin.
Merci, Audrey.
Comment ça va, Élodie, en vrai?
Alors, en vrai, je suis très impressionnée d'être sur ton podcast. Donc forcément pas évident, mais hyper contente d'être là, hyper contente d'échanger avec toi, puisque je suis ton podcast depuis ses débuts et que forcément c'est un honneur et un plaisir d'y être.
Ouais. J'allais dire aux auditeurs que tu étais la fan des premières heures et que ça fait du bien. Voilà, et que pour moi aussi, du coup, c'est un honneur que tu me fasses confiance pour témoigner sur ce dont tu as envie de témoigner aujourd'hui.
Alors, génial.
Peut-être que pour introduire cet épisode, la question en fait qui semble toujours très facile et qui à chaque fois l'est pas tant que ça, c'est comment tu te présenterais toi aujourd'hui, Élodie? Tu es qui aujourd'hui à l'instant T?
Alors, comme je connais très bien ton podcast, je savais que ça allait commencer comme ça. J'y ai beaucoup réfléchi et même en réfléchissant, c'est jamais facile. Voilà, donc finalement, voilà, il n'y a pas tellement de préparation à ce genre de questions. Qui je suis alors, je suis déjà une passionnée. J'aime profondément aimer ce que je fais. C'est vraiment important. J'ai tendance à aller plutôt assez loin dans ce que je fais, donc ça a des avantages, ça a énormément d'avantages. Il faut faire un petit peu attention aussi
le curseur.
Au curseur. Donc j'ai un petit peu de mal avec les curseurs de manière générale. Voilà. Aujourd'hui, alors je suis une maman, je suis une conjointe. Ça c'est pour ma vie personnelle et ouais. Dans ma vie professionnelle, je suis coach en orientation scolaire parce que j'adore les ados, j'adore cette période décisive de leur vie et notamment sur l'orientation scolaire.
Ouais.
Et à côté de ça, je suis entraîneur dans le sport parce que j'aime bien faire plusieurs choses à la fois, mais qui pour moi ont complètement du sens. Et j'ai vraiment pas l'impression d'être si différente que ça, aussi bien dans un métier que dans un autre.
Ouais, merci. Alors là, on a une super présentation parce qu'il y a déjà plein de choses à l'intérieur. Parce que tu parles de passion et je pense que ça va être très éclairant par rapport à ce que tu vas avoir envie de livrer sur la thématique d'aujourd'hui. Et je pense qu'en effet, il y a un vrai feu en toi. Et puis quand tu parles de sens, pour avoir un petit peu réfléchi à notre rencontre, je me suis dit que dans ce terme de sens, il y avait vraiment plusieurs significations. Il y a la direction. Et je trouve que la direction, c'est intéressant par rapport à ce que tu fais, parce qu'on le trouve dans tes deux casquettes, la direction, la trajectoire. Et puis, il y a aussi le sens dans la raison d'être, et qui est hyper présente, en tout cas, dans ce dont tu vas nous parler sur la casquette accompagnement. Donc, j'aime bien ce mot-là. Alors, qu'est-ce qui t'a fait te décider à venir aujourd'hui au micro de Monstrueusement Humain? C'était quoi le moteur? Qu'est-ce qui a déclenché?
Alors, toi déjà.
Ok, merci.
Toi déjà. Et en plus, là où ça a été important, c'est quand tu as lancé ta saison 2, où tu parlais des suicides intérieurs. Alors moi, pour moi, le mot suicide est hyper fort et hyper...
Alors, je te coupe, saison 3.
Saison 3, pardon, excuse-moi.
Non, mais c'est juste pour que les gens se situent. C'est pas grave pour moi. C'est
pas
juste
de problème.
Voilà.
Ouais. Voilà, donc tu parlais de suicide intérieur. Alors, j'ai beaucoup de mal avec ce mot suicide, mais en tout cas, je vois le sens que tu mets derrière. Et quand on parle de ne pas s'écouter, de ne pas oser, de ne pas savoir qui on est, etc., c'est exactement pour ça que j'ai voulu être coach en orientation scolaire. Parce que c'est, à mon sens, une des premières questions dans la vie, finalement, que l'on a et où on nous demande, quand on est ado, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Sous-entendu, un peu, qui veux-tu être aussi plus tard ? À la sortie de l'enfance, c'est une question vertigineuse,
ouais.
Aussi bien pour les parents que pour les ados en eux-mêmes. Donc pour moi, ça avait énormément de sens d'intervenir dès ce début-là. Moi, j'y vois un début. Alors évidemment, l'ado, il a 16, 17 ans, voire un peu plus, mais l'identité scolaire, l'identité professionnelle, chez nous, culturellement, cette phrase, quand on dit « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?»
Ouais.
En fait, c'est quel métier tu fais et ça colle à l'identité. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, c'est culturel, c'est comme ça. Le qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est quel professionnel es-tu ? Et donc, notre identité passe beaucoup par ces choix d'études et professionnels. Et à mon sens, plus on les accompagne tôt, plus on les aide à réfléchir tôt, à s'interroger sur qui ils sont, etc. Tôt, mieux c'est. Voilà.
Ouais, merci. Alors, ce qui me vient, parce que alors donc toi tu as créé Why, c'est le nom de ton, on va dire de ton entreprise, hein, qui est sur ce pan-là d'orientation scolaire. Et ça fait résonner quel Why en toi? Parce que on sait bien quand on va vers quelque chose, c'est que c'est une partie de nous, c'est la continuité d'une partie de nous vers notre contribution au monde. Donc, est-ce que toi, t'arrives à faire le lien avec ton why d'une époque ? Est-ce que tu saurais expliquer pourquoi c'est si important pour toi ?
Alors, moi, j'ai eu la chance, l'opportunité, quand il a fallu opérer un virage professionnel à peu près 40 ans, voilà, de me pencher sur ce qu'on appelle l'ikigai. Et vraiment, la question, c'était quelle contribution au monde on veut apporter.
Ouais.
Et effectivement, c'est très vite, alors pas imposé, mais c'est très vite, oui, effectivement, arrivé ce truc-là de se dire, moi, les questions que je me pose aujourd'hui à 40 ans, c'est important d'apprendre à se les poser parce que dans notre vie, on devra se les poser régulièrement.
Oui. Comme un affûtage, en fait. Comme un peu quelque chose qui se muscle. Et plus on le fait tôt, en plus j'ai envie de dire voilà, du milieu du sport, enfin tu connais
Ouais.
ça en fait, ce truc de, du coup cette discipline à muscler.
Oui, cette discipline à muscler, cette discipline à s'interroger, cette
Ouais.
discipline à être, ce réflexe à être vigilant sur qui on est, ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Aussi les amener sur le fait qu'il n'y a pas de vérité en fait. Leur vérité, c'est la vérité en fait. Donc ça avait vraiment ce sens-là pour moi en fait. Ouais, c'était ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. De leur apprendre cet exercice de s'interroger sur le sens, et notamment sur cette génération qui, à mon sens, alors je ne suis pas sociologue, voilà, mais est vraiment en quête de sens, et la valeur travail est très importante pour eux, mais avec une teinte vraiment différente et
Oui.
avec une idée de sens du pourquoi je le fais, hyper importante, donc pour être aussi dans la réussite, hein, parce que l'idée c'est aussi de les amener dans la réussite, c'est d'être bien dans leur peau et aussi d'être dans la réussite scolaire et plus tard professionnelle. Bah, à partir du moment où on sait pourquoi on se donne du mal, pourquoi on se lève le matin et quel est l'objectif et l'envie derrière, bah, forcément, ça motive des troupes entières.
Ouais. Et tu vois, c'est là où je reviens sur le terme de sens. Moi, j'ai l'impression qu'à une époque, et ça me permet aussi de dérouler sur autre chose, mais à une époque, le sens, c'était vraiment uniquement la direction, et qu'aujourd'hui, le sens, c'est aussi la raison d'être, les valeurs qu'on a envie de d'emmener dans ce qui, a priori, devrait être aujourd'hui un épanouissement. Et non pas une labeur. Et en fait, ça me fait penser à ce terme. Moi, j'essaie d'utiliser de moins en moins le terme de travail qui est lié à tripaliare en latin, qui voulait dire torturer et qui, en fait, est en lien avec le mot tripalium, qui est un engin de torture. Et qu'en fait, ça voulait dire que, en fait, travailler était associé à comme ça va être pénible. On va avoir une rétribution. Sauf qu'aujourd'hui, il y a vraiment la question, et je trouve ça hyper intéressant de, et moi la première, hein, je suis confrontée à ça, c'est, ah, en fait, je peux m'épanouir, me développer et jouir dans une activité, et en plus, je peux gagner ma vie avec ça. Et en fait, ça vient défaire un truc énorme de croyance que, a priori, le travail, on en chie, voilà.
Ouais, c'est ça.
Et qu'en fait, là, il y a
C'est
un
ça.
truc de jouissance et que les jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus, enfin, en tout cas, indiquent qu'il y a vraiment cette recherche, en fait.
Ouais, tout à fait. Et tu vois, ça, enfin, c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre parce qu'en fait, on se connaît. Donc, je sais pourquoi tu dis ça. Mais effectivement, moi, aujourd'hui, alors, notamment dans la partie, dans mon autre casquette d'entraîneur,
Ouais.
Comme c'est dans ma passion, bah effectivement, même moi, j'ai du mal à y voir un métier dans le sens labeur, etc. Parce que c'est absolument pas du tout laborieux. C'est vraiment que du plaisir
Ouais, carrément.
avec des objectifs, etc. Des choses très, il y a un cadre, etc. Mais dans un univers qui est tellement ma passion que j'ai absolument pas ni le matin ni le soir en me couchant l'impression, comme tu disais, d'en avoir chié pour
Ouais.
mériter mon salaire. Et là, pour le coup, c'est un vrai virage et c'est un vrai virage aussi à assumer face aux autres. Parce
Ouais.
qu'effectivement, de ne pas donner l'impression de travailler au sens laborieux du terme,
Mais oui.
mais du coup, on a l'impression, mais en fait, non, mais toi, c'est pas un vrai métier. Mais comment ça, c'est pas un vrai métier?
Ouais. C'est
Donc,
mais c'est tellement
voilà.
vrai. Ouais, c'est tellement vrai ce que
Exactement.
ouais. Et
Exactement.
c'est là où je pense que c'est ta force aussi par rapport à Hawaï, c'est qu'en fait, en venant de ce monde, du sport, enfin de même de la compétition, enfin voilà, il y a tellement ce feu là de d'épanouissement, enfin où toi du coup tu as pu maintenant t'es coach, mais tu as pu j'ai envie de dire le vivre en tant que sportive, enfin de je sais pas comment on dit, athlète de haut niveau, ouais.
Oui.
Et qu'en fait ça tu peux le ramener dans ce que tu proposes aux autres aujourd'hui, et je pense que ça c'est ta puissance aussi.
Oui, parce que le sport de haut niveau, si on n'a pas très rapidement le sens du pourquoi on fait ça et pourquoi est-ce qu'on va aller se donner du mal à l'entraînement, en compétition, en stress, face aux défaites, parce que évidemment, voilà, ça ne marche pas toujours comme on a envie, etc. Voilà, si on n'a pas effectivement cette envie, et c'est pas seulement des objectifs, les médailles, c'est une chose, c'est la cerise sur le gâteau, mais si on n'a pas cette envie et ce sens de savoir ce que ça nous apporte au quotidien, etc., on peut pas durer. On peut pas durer parce que ce serait trop, pour le coup, douloureux. Et du coup, c'est pas très porteur. Et effectivement, le lien que je fais avec l'accompagnement des ados, c'est de les accompagner dans le fait que déjà tout le monde a des talents, a des envies, et que aujourd'hui, le sens que l'on donne à son métier est très personnel. C'est-à-dire qu'on peut avoir alors je donne des fois l'exemple hein, aux ados, on peut avoir par exemple des agents immobiliers qui vont être agents immobiliers parce qu'ils aiment le business, parce qu'ils aiment le côté, et c'est absolument pas un gros mot, hein, je veux dire d'aimer le business, d'aimer, voilà. Oui. Il y en a qui vont aimer ce métier parce que c'est l'accompagnement des familles pour leur trouver leur cocon, etc., etc. Il y en a qui vont aimer ce métier pour l'amour des belles pierres, voilà. Finalement, ils sont tous agents immobiliers, mais la façon et la raison de se lever le matin n'est pas la même. Ouais, et c'est clair. Ça qu'il faut trouver, en fait. C'est pas tant un métier qu'il faut trouver, c'est pas tant une filière. C'est pourquoi je vais le faire et quelle contribution et comment j'ai envie de le vivre. Assez égoïstement, finalement. Hein. Mais parce que, ensuite, quand on est convaincu, du coup, on est convaincant. Ouais. Et quand on a trouvé le sens, on est performant, alors vraiment au sens large du terme, hein. C'est-à-dire qu'on est un bon professionnel qui fait avancer les choses, en fait.
Oui, oui. Oui, et puis pour le coup, tu donnes une coloration à ce que tu fais, et donc forcément, les gens, si je peux l'imager comme ça, les gens vont être attirés par telle ou telle couleur de ce que telle personne dégage ou une autre, et c'est comme ça qu'en fait, ça se déploie. C'est vraiment le déploiement. Le déploiement positif. Ouais, merci. Et en fait, quand je t'entends, je me dis que par rapport à ces jeunes, donc il y a le monde d'où tu viens, il y a aussi dans ton accompagnement, tu as aussi des outils. Enfin, il y a ce truc chez toi il y a ce truc de l'humain. De l'amour, tu vois, pour l'humain. Je pense à des outils comme la PNL, des choses comme ça, qui viennent en plus, j'ai envie de dire, enrichir l'accompagnement, ton accompagnement, justement cette coloration que tu as pour l'orientation, en fait.
Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, alors moi, je me suis formée à la PNL, je me suis formée aussi à la systémie, parce qu'effectivement… Ouais. Ben, on évolue tous avec un entourage humain, matériel, etc. Donc forcément, ça a son importance d'en tenir compte. Et puis parce que avec ces outils-là, ça me permet d'intervenir sur le avant. C'est-à-dire que un ado ou un jeune adulte ou quelqu'un qui est en reconversion professionnelle, s'il sait ce qu'il veut faire. Il y a plein de choses de mise en place. Il y a les conseillers d'orientation, il y a l'ONICEP, il y a pour des reconversions, il peut y avoir voilà plein d'associations, plein de choses de mise en place. Moi, j'interviens sur le avant, c'est-à-dire il faut que je choisisse ou il faut que je change. Ça dépend voilà où est-ce qu'on en est, et je ne sais pas par quel bout commencer, en fait. Moi, c'est vraiment ça, et c'est presque un peu mon slogan, c'est-à-dire l'orientation scolaire, par où on commence, quand on commence. Parce qu'ensuite, il y a des, enfin voilà, ensuite le système est très bien fait pour trouver voilà, les filières techniques, techniquement, où est-ce que je m'inscris, quelle option je suis, etc., etc. Ça, c'est très bien fait. Par contre, c'est le avant. Je ne sais pas ce que je veux faire et par quelle bout je commence. Ou mon enfant ne sait pas ce qu'il veut faire, parce que c'est surtout ça, en fait. C'est souvent, comme on parle d'adolescents ou jeunes adultes, c'est souvent des parents qui m'appellent en me disant, voilà, il ou elle ne sait pas ce qu'elle veut faire. On ne sait pas par quel bout commencer. On ne sait pas comment l'aider. On ne veut pas l'influencer. Mais en même temps, faudrait l'aider sans l'influencer. Voilà, il y a aussi une charge émotionnelle entre les parents et les enfants qui n'est pas toujours facile. Donc, c'est souvent après des conversations voilà, qui se terminent avec « tu me saoules » et « on claque la porte » et fin de la conversation. Donc, c'est ça en fait. Moi, ce que j'ai à cœur, c'est cette période-là. Et ensuite, une fois qu'ils ont trouvé, je leur mets le pied à l'étrier pour aller chercher les bonnes personnes et les bons conseils, etc. Mais surtout la période d'avant, en fait.
Ouais. Et en fait, tu vois, quand tu parles, enfin, moi, j'ai envie de ne pas restreindre à orientation scolaire, parce que quand je t'entends et de ce que je connais de toi, pour moi, je trouve que c'est hyper précieux parce que, en fait, c'est le qui suis-je même. C'est carrément le qui suis-je, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux bien aller puiser à l'intérieur et que je veux bien révéler au monde, parce que dans cette période-là, c'est pas si simple de se connaître, mais en plus d'oser montrer d'oser montrer, j'ai envie de dire d'oser se le dire à soi, mais d'oser aussi montrer à des familles où on sait que on vient tous de familles où il y a des schémas, et tu parlais de systémie. Et c'est hyper intéressant parce que en effet, toi, t'as quand même un public dans ce que tu décris, avec des parents qui quand même sont dans le qui veulent bien, qui sont prêts à accepter un déploiement de leur enfant, presque, enfin peu importe où ça va. Mais c'est pas toujours simple, on le sait, par rapport à des schémas. Et là, je veux en venir à voilà la norme, les normes familiales, les injonctions, des fois des injonctions où a priori on peut se dire mais non, il y en a pas, mais qu'inconsciemment il y a des grosses injonctions, voilà, et qu'on veut bien faire, mais qu'en même temps ça pousse derrière, ben tu vois. Et donc je me dis, ouais, il y a vraiment un truc ultra précieux là dans ce que tu proposes, dans le qui suis-je, de faire ce qui me vient, c'est accoucher en fait, tu vois, faire naître, révéler le multiple chez un jeune, parce que tu l'as dit, on a plein de cordes à notre arc, mais c'est vraiment cette posture en fait de révéler.
Ah oui, tout à fait. De toute manière, l'orientation scolaire, ça n'est que une, enfin pas une excuse, mais je veux dire, c'est un pan, c'est la première étape, mais de cette réflexion-là, effectivement, de qui suis-je, qu'est-ce que je veux faire, comment je veux vivre, comment je veux être avec ou dans mon entourage ou à côté justement de ces espèces de normes, etc. Effectivement. Alors, c'est à l'occasion de l'orientation scolaire, parce que dans la vie, finalement, c'est la première question qui arrive dans l'ordre chronologique. Mais oui, et puis, effectivement, c'est déjà cette réflexion-là. Et quand tu parlais d'injonction, il y a aussi des surprises, c'est-à-dire qu'il y a effectivement le jeune dont on attend quelque chose, et le jeune qui pense qu'on attend de lui quelque chose, donc c'est à tous les niveaux, c'est-à-dire que effectivement, des fois on se retrouve dans des conversations en disant mais c'est toi qui penses que tes parents ne voudraient pas, ou ils t'ont déjà dit qu'ils ne voudraient pas que tu fasses ça, par exemple, ou que tu voilà. Et il y a des fois, finalement, en posant la question, la réponse n'est pas si claire que ça.
Ouais,
Maintenant, là, effectivement, où je te rejoins, c'est qu'à partir du moment où le parent m'appelle, c'est que forcément, il est prêt déjà à faire entrer une tierce personne dans la conversation, ce qui n'est pas évident pour des parents.
Ouais, c'est sûr.
Voilà. Et puis, effectivement, voilà, il est prêt à dire, moi, peu importe, entre guillemets, où ça mène, mais je veux qu'il puisse avancer, faire ce qu'il a envie, etc., etc. Évidemment qu'un parent qui voudrait impérativement que son enfant, je sais pas, mettons, reprenne l'entreprise familiale, peu importe ce que l'enfant en penserait, ne fera pas appel à moi, parce que
ouais.
sinon c'est prendre un risque, entre guillemets, que
oui.
l'enfant dise « Non, non, mais moi, votre entreprise, je la veux pas. » Voilà. Donc, non, j'ai forcément que des parents qui souhaitent effectivement que leur enfant commence cette réflexion-là, ouais.
Alors, ouais, mais pour autant, est-ce que à des moments, parce que moi, ce qui me vient, c'est tout ce qui est loyauté familiale, c'est-à-dire peu importe dans un sens ou dans un autre. Enfin, je pense par exemple à des milieux où on va dire que peut-être plus intellectuel ou en tout cas des cursus plus intellectuels tout à coup, tu sais, t'as celui qui déboule et qui veut être artiste. Genre, mais qu'est-ce que tu nous fais, toi? Et en plus, sous-entendu, et là, je connais bien ça, le truc de ben, artiste, ce n'est pas un métier, parce qu'artiste, c'est quand même de la créativité, éventuellement du kiff, donc voilà, on ne gagne pas sa vie en étant artiste. Ou inversement, des familles plus modestes, avec des cursus plus humble, et tout à coup il y a cet enfant qui va avoir envie de prendre une filière très intellectuelle, et voilà ce qui se joue là-dedans de oui, j'ai envie que mon enfant soit heureux, mais en même temps ça fait quoi d'avoir un enfant peut-être brillant socialement, enfin tu vois, et je me dis, est-ce que tu rencontres quand même des résistances, et pour moi c'est très humain, mais est-ce que quand même si les parents sont OK pour te contacter, est-ce que des fois tu sens que waouh, ça coince dans les rouages?
Alors oui, évidemment, parce que l'enfant forcément se demande si c'est bien, si c'est légitime de vouloir ci, de pas vouloir ça, de comment ses parents vont réagir, parce que de toute manière, on est tous les enfants de ses parents, et que s'il y a bien quelque chose qui compte pour tout le monde, quelles que soient un peu les histoires familiales, c'est le regard que nos parents portent sur nous.
Ouais.
Et j'ai envie de dire, alors ça n'engage peut-être que moi, mais moi, encore aujourd'hui, à 44 ans, ça compte. Donc forcément, sur un ado qu'on a 15, 16 ou voilà, ben forcément, c'est hyper important d'avoir la validation et l'appui de ses parents, et d'être sûr de ne pas décevoir, de ne pas mettre mal à l'aise, etc., ses parents.
Ouais, puis c'est,
maintenant,
et puis excuse-moi, ouais. Mais au-delà de ça, c'est la question aussi d'appartenance, c'est-à-dire que c'est chaud. Ça vient vraiment dans un truc très archaïque d'avoir peur d'être rejeté en fait d'un clan, et du coup si on est rejeté, en tout cas quand on croit qu'on peut être rejeté de cet espace d'où l'on vient et d'où l'on est né, c'est hyper flippant. Alors c'est flippant déjà adulte, mais alors ado c'est énorme.
Alors du coup c'est pour ça que l'accompagnement, souvent du coup le schéma qui se passe, c'est que quand on vient toucher ça et que là, c'est oulala, voilà, là on attaque des sujets qui vont être un petit peu l'Everest, etc. Voilà, c'est là où c'est important d'en parler et de voir justement les arbitrages que l'ado va pouvoir opérer pour faire ses choix en conscience, en fait. Donc effectivement, on va aller travailler sur les croyances, etc. Et puis on va aller travailler sur ses limites, les limites qu'il se met et les limites qu'il est prêt à imposer ou pas, d'ailleurs, mais en tout cas en accord avec lui. Donc il y a déjà ce pan-là. Et puis, comme les séances sont espacées, etc., il y a aussi le dialogue qui se renoue, enfin qui se noue en tout cas, autour de ces choix-là avec les parents, du coup, qui savent que leur ado est accompagné sur ce sujet-là. L'ado qui sait que ses parents savent aussi, donc voilà, donc ça recrée aussi le dialogue, justement pour pas créer de rupture, parce que l'idée, ouais, c'est absolument pas de créer de la rupture, au contraire, c'est bien que tout le monde puisse, je dirais, idéalement être comme il a envie d'être, tout en respectant le système, et d'où le fait que je me suis formée à la systémie, parce qu'effectivement, on n'est pas hors système, c'est pas vrai. Et quand on dit « non mais moi je m'en fous de la vie des autres », c'est absolument pas vrai, ou alors c'est vraiment sur des sujets, ouais, voilà, vraiment voilà, très basiques, et finalement dont les autres se foutent finalement, donc c'est pour ça qu'on peut ne pas en tenir compte. Mais c'est aussi d'avec eux aller identifier le système, identifier un petit peu dans quoi ils évoluent et qu'est-ce qu'ils sont prêts à secouer ou pas, à faire bouger ou pas, et puis parce que oui, la plus grande peur de toute manière, et on le sait, c'est ce sentiment de solitude et de rejet et de potentiellement, ouais, être abandonné ou voilà, d'où le fait qu'on est toujours les enfants de ses parents, donc oui, tout à fait.
En fait, je me dis, c'est super intéressant parce que à partir du moment où un enfant vient te voir, c'est l'occasion pour des parents aussi d'aller revisiter leur schéma, d'aller se questionner sur les parcours. Enfin, j'imagine que pour le coup, le système frémit de partout, enfin dans le bon sens. Hein, quand je dis frémit, tu vois, comme une petite recette là où c'est sur le feu. Ça me fait vraiment penser à ça. Et moi, j'aurais bien envie concrètement d'entendre c'est quoi les peurs exprimées des jeunes, ou c'est quoi les peurs ou les moments de friction, comment ça se dit à travers la bouche des parents. T'aurais des exemples
Eh bien, écoute, alors je vais te donner l'exemple d'une... Alors pour le coup, c'était une jeune femme, on va dire, un tout petit peu plus de 20 ans. Ouais. Qui avait une première expérience professionnelle, voilà, pour son indépendance financière, etc. Voilà, la maman, je la connaissais bien, enfin, je la connais bien, et elle m'appelle, bon, voilà, et en gros, sa fille avait des projets, mais changeait beaucoup d'avis, etc. Et à chaque fois, c'était très, la maman me présentait les choses comme quelque chose de très, un petit peu superficielle, un petit peu c'est une rêveuse, un petit, ouais, peu elle se rend pas compte, etc.
Elle sait pas ce qu'elle veut, quoi. Elle sait pas ce qu'elle veut.
Et du coup, bah nous, ça nous fait peur, en fait. Ça nous fait peur parce que il y a rien de vraiment, entre guillemets, construit. C'était vraiment un peu le manque de construction qui faisait peur aux parents. Donc voilà. Et quand j'ai rencontré la jeune femme, le truc, c'est qu'elle avait été prise de passion. Alors, elle avait eu un coup de foudre pour un métier, mais alors vraiment, pour le coup, le coup de foudre pour le métier, mais tellement surprenant qu'elle avait du mal à expliquer. Et tu sais, c'est un petit peu comme quand on a une entreprise, on a du mal à pitcher au début un peu son projet, et du coup, d'être convaincant.
Ouais, sur, ouais.
Je peux vraiment apporter une solution, etc. Ben, c'était un peu ça, en fait. C'est qu'en fait, pour elle, c'était tellement émotionnel, etc., qu'elle disait « ouais, mais en fait, ils ne comprennent pas, mais c'est vraiment ça ». Mais pour eux, c'était tellement soudain, et pour elle aussi, ça faisait très enfantin, en fait. Et elle me dit « ils me prennent vraiment pour une enfant alors que j'ai 20 ans et que j'ai un travail, etc. Voilà. » Et on a travaillé, du coup, sur ses aspirations, ses valeurs, etc., etc. Et en fait, le fait est que ce métier, ce coup de foudre professionnel était toujours hyper présent et du coup, il fallait vraiment qu'elle aille explorer ça. Il fallait vraiment qu'elle aille explorer ça parce que ou c'était vraiment ça, il fallait qu'elle le fasse, ou alors c'était pas vraiment ça, mais il fallait quand même qu'elle aille au bout de la démarche pour prendre une décision, parce que sinon, ça la bloquait, en fait. Elle
ouais,
réfléchissait
carrément.
pas à autre chose. C'était même un peu, limite, un peu obsédant, j'ai envie de dire, voilà. Bon.
Oui, et là, elle pouvait basculer, enfin, ça, pour faire le lien, à, voilà, si j'y vais pas, ça veut dire peut-être un petit suicide intérieur,
ah,
parce
oui.
que peut-être que je vais renoncer à quelque chose qui m'anime, et en même temps, si j'y vais pas, je vais jamais savoir, peut-être que c'est pas du tout ce qu'il me faut, mais je plonge, quoi. Ouais.
Mais il lui fallait de toute manière des preuves. C'est
Ouais.
ou c'est ça ou c'est pas ça, mais à un moment donné, il va falloir trancher et clôturer le dossier,
Ouais.
ou en passant à l'action ou en renonçant. Mais en tout cas, c'était je saurais pourquoi j'y renonce. Donc voilà, donc de fil en aiguille, voilà. Elle fait les démarches, etc. On finit l'accompagnement sur elle fait la formation dans ce métier-là.
OK.
Et je vois la maman après l'accompagnement, et là la maman était transformée, c'est-à-dire que c'était le discours avait changé, c'est-à-dire le mais ça lui correspond complètement, elle a raison de le faire, c'est génial, etc., etc. Et en fait, ce qui avait changé, c'est juste que la fille était convaincue, c'était
ouais.
construit, c'était expliqué. C'était amené, et pour le coup, ben forcément, la famille ne pouvait presque que valider.
Ouais.
Et elle-même m'a dit, c'est le même projet, mais aujourd'hui, je me sens soutenue. J'ai dit, oui, mais t'es pas la même par rapport à ton projet. C'est-à-dire que là où on avait l'impression, alors pour reprendre un peu cette histoire de coup de foudre, etc., là où peut-être tes parents avaient l'impression que c'était une amourette, on
ouais,
va dire.
Carrément, ouais, ouais.
De passage,
ça va
etc.
Te passer, ça va te passer.
Ça va te passer, t'inquiète pas, c'est des amours de jeunesse. Là, du coup, c'est presque comme si, voilà, tu te présentes à tes parents et il y a quelque chose, voilà,
ouais.
d'engageant, de construit, t'as réfléchi, etc. Et du coup, là où les parents et moi, en tant que professionnelle, je me suis dit, oula, alors les parents n'étaient pas hyper partants pour ce projet-là professionnel,
alors...
mais bon.
Excuse-moi, oui, parce que je te coupe, mais c'est ça, c'est là, moi, je sens ma curieuse de, mais c'était quoi ce boulot? Parce que on peut se dire que c'était, ok, le côté pas structuré qui pouvait inquiéter, mais ça peut être aussi le job en lui-même, c'est-à-dire, oh là là, mais c'est tellement pas sérieux ou c'est tellement loin de notre univers, tu vois?
Alors,
aussi.
Alors, sans trahir aucun secret, etc., c'est quand même une jeune femme qui, à la base, avait plutôt évolué en termes d'études dans infirmière, aide-soignante, etc., voilà, qui finalement travaillait pour un travail alimentaire, on va dire, voilà, pour se construire, etc., dans quelque chose d'assez tertiaire, donc plutôt en bureau, etc. Et en fait, son coup de foudre, c'était d'être torréfacteur.
Waouh!
Donc rien à voir. Donc
ouais.
Forcément la grosse flip, voilà. Mais derrière, en construisant le projet et en construisant le projet, en discutant de ça de façon un peu plus posée, structurée, etc. C'était ça et ça l'animait. Et quand on l'entendait parler, n'importe qui aurait voulu être torréfacteur quand tu l'entends parler. C'est voilà.
Ouais, c'était contagieux. Donc, en fait, c'était contagieux.
Ouais. C'est exactement ça. Donc
ouais.
Effectivement, là, elle est donc actuellement en formation. Donc effectivement, elle verra ce qu'elle en fait. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça lui permettra de passer à l'action, là-dedans ou ailleurs. Mais en tout cas, ça lui permettra de passer à l'action. Et pour le coup, tout le monde est tranquillisé parce que elle était sereine, quoi. Elle était sereine, ça avait du sens, elle savait pourquoi elle faisait les choses. Et pour le coup, ça tranquillise les parents et ça tranquillise aussi le jeune. Donc là où les parents, au départ, font appel à moi sur « oh là là », c'est peut-être une idée un peu bizarre, etc. Voilà. Finalement, on garde la même idée, mais le fait de la structurer, le fait d'en discuter, etc., elle a été plus convaincue, plus convaincante. Et pour le coup, le regard a complètement changé.
Ouais.
Donc, tu vois, pour revenir à ce que tu disais, les loyautés, etc., le est-ce que j'ose pas, etc., je pense aussi, et je suis profondément convaincue, parce que c'est aussi mon histoire, que quand les gens sentent qu'on est passionné par ce qu'on fait, ben, ils sont contents pour nous, et forcément, c'est, ça ouvre les portes. Maintenant, c'est vrai que, et voilà, il faut voilà, amener le projet, savoir parler de ce qu'on fait, etc., pour rassurer aussi l'entourage. Parce que l'ado, et c'est souvent une conversation que j'ai avec eux, l'ado a ce devoir de rassurer aussi ses parents. Mmh. Et souvent, d'ailleurs, on commence par ça. Souvent, on commence par ça, sur... voilà, pourquoi ta maman ou ton papa ont fait appel à moi? Bah parce qu'ils stressent pour mon avenir. Ok, pourquoi ils stressent?
Ouais, ils stressent.
Bon, voilà.
Et
pourquoi? Bon, ouais, pourquoi? Sans déconner. Voilà. Et effectivement, je dis, bah ouais, mais si vous en parlez pas, forcément, le silence est hyper stressant.
C'est ça. Ça met une chape de plomb en plus au bout d'un moment. Ouais, ouais. Et tu vois, alors quand, merci pour ce témoignage. Voilà, moi ça me parle énormément et j'espère que ça parlera à plein de grands adultes ou de jeunes. Moi, la thématique qui me vient après le qui suis-je, c'est là l'histoire, vraiment le rendez-vous, ce que j'appelle la ponctualité délicieuse du rendez-vous avec soi. C'est le truc de se choisir en fait là. C'est-à-dire que ce que je trouve très beau, et forcément, je vois le lien qui peut nous animer toutes les deux, c'est qu'en fait, tu es là comme une garante, parce qu'en fait, là, il y a une espèce de ce qu'on appelle une triangulation en psy. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait peut-être un dialogue de sourds, parce que ça arrive hein, entre parents et enfants, d'être dans un dialogue de sourds, et surtout dans ces périodes-là, en fait, toi, du coup, là, tu deviens garante, et pour les parents, et pour le jeune, du rendez-vous. C'est-à-dire que là, la jeune, elle a été en capacité de se choisir, de choisir ce feu, ce truc-là, moi que j'appelle le vivant en soi, ce truc où de toute façon, si tu y vas pas, il y a ce que j'appelle, oui, ces petites morts à l'intérieur qui peuvent devenir dramatiques. Donc, la thématique de se choisir, ça t'évoque quoi, toi, quand je te dis ça, se choisir?
C'est se choisir, c'est ne pas s'oublier. Tu sais, moi, j'ai quand même beaucoup. Tu sais, quand dans les consignes en avion, on dit voilà, vous prenez le max à oxygène d'abord pour vous, pour pouvoir et pas à votre enfant, alors là, c'est horrible hein, d'entendre ça, mais pour pouvoir vous occuper de lui, etc., c'est effectivement déjà ça, en fait. C'est qu'en fait, on vivra avec nous-mêmes toute notre vie. Voilà. Donc, il y a ça. Et puis, moi, j'ai toujours été, alors, je ne sais pas tellement d'où ça vient, mais j'ai toujours été animée par ne pas avoir de regrets.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a des choses, si c'était à refaire, je les referais différemment. Oui, ok, super, et on est tous pareils. Par contre, au moment où j'ai fait des choix, et encore aujourd'hui, en repensant à ces choix, je n'ai aucun regret.
Ouais.
Et pour le coup, ça, c'est un vrai luxe.
Ouais, là,
ça,
on
c'est
retrouve.
C'est un vrai, vrai luxe.
En tout cas, qui t'a modelé sûrement aussi. Le fait de venir du milieu du sport, du côté haut niveau, enfin tu vois ce truc très flèche, c'est-à-dire que c'est focus sur l'objectif et on agit et après on l'aurait peut-être fait différemment, mais au moins on l'a fait. Ouais.
Ouais, c'est exactement ça. Et c'est et effectivement le sport m'a sûrement amené ça. Et puis comme j'ai commencé très jeune, voilà, c'est le fait que quand tu auras terminé ton épreuve, si c'était à refaire, tu as le droit de vouloir la faire différemment, mais en tout cas, maintenant qu'elle est terminée, tu as aucun regret. Mmh. De se dire ah, peut-être que j'aurais dû faire un effort là-dessus ou pas, voilà. C'est vraiment très différent. Et là, pour le coup, ça veut dire aussi qu'on est OK avec le résultat. Bon ou mauvais, et là, je reparle du sport, ça ouais. veut dire que, voilà, j'ai fait ce que je pensais le mieux, que stratégiquement, voilà, j'ai décidé à ce moment-là de faire ça, de décider en conscience de faire ça. Donc, ça veut dire que le résultat derrière, c'est le mien. Alors, il y a des résultats qu'on préfère à d'autres, hein, on est bien d'accord. Mais, en tout cas, il n'y a pas de regret parce que j'ai été aux commandes. J'ai été aux commandes de ce qui s'est passé.
Ouais, j'étais dans mon pouvoir, en fait.
Exactement. Alors, il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait que j'ai toujours eu des entraîneurs qui refusaient les excuses de l'extérieur. De, il faisait trop chaud, il faisait trop froid, j'avais mal au ventre, etc. Ouais. Je ne sais pas, il y avait du bruit, quelqu'un fait du bruit derrière moi, etc., etc. Donc tout ça, c'était...
voilà, pouf là.
Voilà, donc aucune excuse. Il n'y a pas d'autoflagellation, absolument pas non plus, parce que sinon, on arrête, hein, voilà. On n'est pas là pour ça. Mais en tout cas, il n'y a pas d'excuse non plus de « on m'a dit que j'ai pas fait », on m'a pas donné le choix, voilà, il y avait pas de ça en fait.
Se responsabiliser en fait.
Exactement. Donc dans mon accompagnement, il y a aussi ça, c'est aussi teinté de ça, c'est et toi là-dedans en fait. Et toi là-dedans, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu peux faire? Et puis à côté, il y a ce sur quoi on n'a aucune maîtrise, qui ne dépend pas de nous, et là, c'est aussi ça, c'est de ne pas s'auto-flageller sur des choses qui ne sont pas de notre ressort.
Ouais.
C'est vraiment commencer à les faire, à devenir aussi adultes responsables aux commandes de leur projet.
Ouais. En fait, ta posture, je trouve que c'est assez génial parce que ta place, elle est de celle qui, ou de celui qui justement permet de ne pas tergiverser.
Oui.
Non, mais tu vois, en fait, je trouve qu'il y a vraiment un espace d'empuissancement. En fait, c'est quelque part, OK, on fait l'état des lieux, on sonde et tout. Donc maintenant, moi, je peux t'accompagner. Et voilà quoi. Tes parents t'offrent aussi cette possibilité-là parce que aussi il faut reconnaître, des générations de parents, et ça c'est aussi très intéressant, des générations de parents qui sont en capacité de pouvoir, comme tu disais, envoyer leurs enfants vers des personnes, et donc ça veut dire accepter de ne pas être le seul qui sait pour son enfant le mieux parce qu'il n'y a qu'une mère ou un père pour savoir au mieux. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Mais ouais, en fait, c'est ça qui me saute à la figure. Je me dis, tu es la flèche qui est là pour dire, bah voilà, maintenant moi je peux t'emmener, je peux t'accompagner, parce que bien sûr c'est l'autre qui fait le boulot, mais en fait c'est vraiment l'espace d'empuissancement.
Oui, et puis moi dans ma personnalité, dans mon caractère, etc., ouais. La notion de tergiverser n'existe pas beaucoup, en fait. N'existe pas beaucoup. Et tu vois, quand tu disais les parents sont les personnes qui connaissent le mieux leur enfant, etc., effectivement, moi-même, en étant maman, je suis forcément persuadée d'être celle, bon, avec mon conjoint, voilà, qui connaît le mieux ma fille, etc. Sauf qu'on a eu un enfant, mais des fois, quand l'enfant grandit, on n'a pas toujours les mises à jour.
C'est clair. Voilà.
Et ce qui fait que on pense que voilà, sur des bêtises, hein, que son plat préféré, sa couleur préférée, etc., etc., c'est ci, c'est ça, etc. Oui, parce que ça l'était peut-être il y a 5 ans, mais on n'a pas eu la mise à jour, et puis entre-temps ça a changé, et puis des fois on est un petit peu surpris. Ça permet aussi ça permet, parce que moi, comme je suis la tierce personne, moi j'ai toutes les questions. Je peux poser toutes les questions de mise à jour parce qu'on fait connaissance. Et finalement, son enfant, comme on vit avec, on refait jamais connaissance de son enfant en partant de zéro. Donc, on essaie de suivre et on s'applique à suivre hein, au plus près, etc. Mais il y a des fois, il y a des mises à jour, voilà, qu'on n'a pas eu, des petits rafraîchissements de mode d'emploi qu'on n'a pas eu. Et dans ces moments-là, notamment d'orientation scolaire ou des choses comme ça, on se dit, bah, mince, je sais pas comment, voilà, comment l'aider sans l'influencer. Donc, ouais. C'est vrai que la tierce personne, elle arrive, et puis, bah, du coup, moi, il n'y a pas d'affect. Donc, ça veut dire que n'importe qui, entre guillemets, me dit n'importe quoi. Il n'y a pas d'affect. Donc, ça aide. Mmh. Et puis, comme je ne le connais pas du tout, j'ai le droit de poser, pour le coup, toutes les questions de pourquoi, par exemple, il a choisi de faire tel sport. Pourquoi est-ce qu'il a choisi telle option? Pourquoi est-ce que il joue aux jeux vidéo? Alors, c'est très actuel, mais voilà. Mais pourquoi ce jeu vidéo-là? Qu'est-ce qu'il trouve comme intérêt là-dedans, etc. Qui est-ce qu'il suit sur les réseaux sociaux? Pourquoi ces personnes-là et pas d'autres, etc., etc. Et toutes ces questions-là, bah, pour le coup, moi, elles sont nécessaires. L'ado est pas choqué par les questions que je lui pose parce que comme on se connaît pas, c'est OK. Et puis, bah, ouais, on fait une sorte de, d'update, de mise à jour.
Ouais.
Voilà, de ça. Et c'est bien. Et puis, en plus, l'ado se positionne lui tout seul, en fait. C'est lui qui répond aux questions.
Mmh. Ouais, ouais. Ça m'évoque le fait, oui, de la curiosité. C'est-à-dire, quand on est habitué à vivre avec quelqu'un, même si c'est son enfant, des fois, la curiosité, bah, elle n'est pas affûtée comme quand on découvre une personne. Enfin, voilà, comme on peut le trouver aussi dans un couple. Enfin, voilà, il y a un truc à un moment où, bah oui, il y a un quotidien qui fait que, bah oui, notre enfant, c'est notre enfant, donc on sait. Sauf qu'il y a eu d'autres mondes, surtout à l'adolescence, qui gravitent autour et qui ne sont plus que le petit noyau pépère familial. Ouais. Ouais, merci. Aussi, ce qui me venait, j'aurais envie, parce que je vois le temps qui s'écoule, ce temps, mon Dieu, ma discipline du temps. J'aurais envie de clôturer par rapport à ouais, le choix de cœur. Vraiment, on est à une époque où je pense qu'on est plus enclin, les adultes, à admettre ou à accepter que les enfants fassent un choix de cœur. Comment, enfin, qu'est-ce que tu auras envie de dire là-dessus sur bah voilà, quand on a un truc là qui fait que ça palpite et que des fois ça paraît tellement, comme ta jeune dont tu parlais, ça paraît tellement lunaire. Qu'est-ce que tu auras envie de dire par rapport à ça, sur ce choix de cœur?
Moi, je pense que notre génération, donc comme je disais, hein, j'ai 44 ans, je pense que nous, moi, j'ai eu l'occasion alors, j'ai toujours fait des métiers qui m'ont passionnée, mais ça a été des opportunités que j'ai saisies et qui m'ont apporté des trucs top et voilà. Quand il y a 4 ans, il a fallu faire cette traversée de la page blanche, c'est-à-dire soudainement fallait que, enfin voilà, soudainement je n'avais plus de projet là où j'étais. Et de repartir presque à zéro et de se dire bah tout est possible, mais en même temps le tout est vachement vertigineux.
Ouais.
Je pense que nous, notre génération, on le vit à cet âge-là, c'est-à-dire 35, 40 ans, 45 ans, voilà. Et du coup, de le vivre moi à 40 ans. Notamment par exemple pour ma fille, je me suis dit mais en fait ça, il faut qu'elle le vive beaucoup plus tôt.
Ouais.
Et que dès le début, elle s'interroge sur qu'est-ce qu'elle veut, qui elle est, parce qu'à un moment donné, ce sera inévitable, parce que dans la vie, le cœur, à un moment donné, peut pas rester muet ou étouffé ou contraint éternellement. Ou alors, on vit vraiment dans, à mon avis, une souffrance.
Bah, ce que j'appelle les suicides et qui font des dégâts, les suicides intérieurs, c'est-à-dire voilà, des pétages de plomb, des maladies, enfin voilà, des choses, un corps qui parle,
oui,
en fait, au bout d'un
tout
moment.
Tout à fait, Ouais. Alors, je suis pas spécialiste, par exemple, en, je sais pas, crise de la quarantaine, crise de la cinquantaine, ou peu importe. Je sais pas si ça peut être lié à ça, mais je pense qu'on n'est pas très loin. Donc aujourd'hui,
Ouais.
nous peut-être sur notre génération, là où peut-être les générations précédentes ont réussi à malgré tout à se taire presque toute leur vie parce que comme on disait le travail,
Le labeur.
voilà, oui et puis ça doit être laborieux et puis si c'est pas laborieux c'est que c'est pas un travail etc etc comme c'était des vraies valeurs ancrées c'était OK et donc c'était la normalité. De c'est dur, c'est pénible, lundi t'as pas envie d'aller au boulot, bah c'est normal, c'est le travail. Ok,
Ça
super,
va
donc
passer.
ça
Ça va
c'était la
passer.
génération d'avant, voilà, c'est
Ouais.
ça.
Ouais.
Qu'est-ce que tu crois, voilà, que moi, enfin bon, bref, voilà. Nous, je pense qu'on a opéré une sorte de virage, mais peut-être à mi-chemin, donc sur les coups de 30, 40, 50 ans. Et là, on a l'opportunité de se dire, ok, ben, peut-être que dès le début, il faut commencer à savoir réfléchir et à savoir s'écouter. Parce que je pense que on a ça, alors non, c'est pas je pense, c'est on n'apprend pas, ça s'apprend de s'écouter.
Ouais, je suis
Ça
d'accord avec toi.
s'apprend. Et moi, j'ai appris à m'écouter par le sport, parce que j'ai eu cette chance-là, donc je me suis écoutée très tôt pour la recherche de la performance, de la motivation, etc., etc. Mais ça s'apprend en fait. Et si on l'apprend tard, et ben du coup on réagit tard. Alors mieux vaut tard que jamais, on est bien d'accord. Mais voilà. Mais je me dis, est-ce qu'on pourrait pas commencer plus tôt
Mais oui, mais bien sûr, ouais.
à apprendre à s'écouter? Ce qui fait que les choix que l'ado va faire aujourd'hui à 16 ans, bon très bien, il va décider de partir dans telle filière, etc. Mais quant à 20, 25 ans, il va remettre aussi en question parce que finalement, peut-être que c'était, il saura s'écouter. Et ça, c'est mon ambition en fait, hein. C'est que les jeunes que j'accompagne apprennent à s'écouter pour qu'ils puissent s'écouter toute leur vie.
Carrément. En fait, quand tu dis ça, enfin, c'est très très cohérent par rapport à tes casquettes. C'est vraiment l'idée d'inculquer. Alors moi, je le dirais autrement dans mon univers, mais c'est ce qui nous rejoint aussi. En tout cas, c'est d'inculquer une discipline très tôt. En fait, ce que tu proposes, c'est cette discipline de se connaître. Moi, ce que j'appelle, oui, le goût de soi. Voilà, ce truc-là. Et en fait, dans ta bouche, c'est vraiment de, ouais, ce truc de discipline, comme un athlète. C'est OK, je vais apprendre, et plus je vais apprendre de moi, qui je suis, plus je vais pouvoir, j'ai envie de dire, je vais pouvoir calibrer mon GPS, de vie,
Oui.
de façon juste, en fait.
Et quand tu parles de d'écouter son cœur, n'oublions pas que le cœur est un muscle.
Ouais,
Donc il faut
carrément.
le muscler. Et effectivement, pour pouvoir l'écouter, il faut qu'il sache faire le job et nous de savoir détecter et l'entendre et le comprendre en fait.
Ouais, carrément. Ouf, c'est. Il va falloir se dire stop. C'est terrible. Il y aurait tellement d'autres choses à dire. Est-ce que pour clôturer, donc là, tu vois ma discipline, très
Je
compliqué
vois.
pour moi hein, d'être le maître du temps, toujours, mais voilà, je m'attelle, tel un athlète. Ça serait quoi le mot de fin pour cette petite papote, ta petite papote? Qu'est-ce que tu auras envie de dire?
Qu'est-ce que j'aurais envie de dire pour clôturer? Bah, écoute, alors je reviens au début finalement. C'est de trouver le sens en fait et de ne jamais lâcher le sens, c'est-à-dire l'orientation, mais aussi le sens, c'est-à-dire la motivation et le pourquoi on le fait. Et moi, quand j'ai appelé mon, et tu en étais témoin presque, hein, quand j'ai appelé mon accompagnement Why, C'est vraiment ça, c'est le why, le pourquoi, pour qui on fait et pourquoi on fait. Et ça, c'est vraiment l'essentiel. C'est vraiment l'essentiel. Et souvent, quand on est dans le doute, etc., c'est parce qu'on a perdu ce why en fait et ce pourquoi je fais les choses, pour qui je les fais. Donc voilà, donc ne jamais perdre le sens, et quand on le perd, et c'est normal, et il n'y a pas de souci, d'aller se remettre au travail pour le retrouver. Peut-être un autre, parce que chaque étape de la vie est différente et on a des aspirations différentes, mais de toujours avancer avec un sens très très clair.
Je pourrais te baptiser, j'ai un mot qui me manque, mais en tout cas, oui, tu réaimantes pour que la boussole s'oriente comme il faut. C'est pas mal, ça.
Écoute, c'est pas mal, c'est pas mal.
Il y a un truc comme ça qui me vient, c'est voilà, tu réaimantes pour qu'on perde pas le nord, en fait.
Oui,
M
pour qu'on perde pas
merci.
son or.
Son nord. Merci pour
Ouais.
cette précision. Pour qu'on ne perde pas son or. Merci, Elodie.
Merci à toi.
Peut-être qu'on se reverra sur ce podcast, parce que là, j'ai l'impression qu'on a fait le quoi? Le tiers,
L'intro?
même pas. Donc, merci pour ta confiance. Merci pour ce partage. Moi, j'indiquerai forcément en dessous l'épisode pour les auditeurs si vous avez vraiment envie pour votre enfant. Voilà, allez-y. Elle a plein de cordes à son arc, si je puis m'exprimer ainsi. Allez-y en toute confiance. Et ouais, merci pour ce moment, ce partage pour et pour les parents peut-être perdus. Pour enlever de la pression et puis pour les jeunes, parce que je pense que c'est ce point-là aussi qu'on a en commun, c'est vraiment de faciliter le déploiement de nos jeunes.
Et oui.
Merci Elodie.
Merci à
À
toi, Audrey.
bientôt.
À bientôt.
Et voici cette petite papote aux côtés d'Elodie qui se termine. Alors j'espère que tu auras saisi mon pourquoi je tenais tant à ce qu'Élodie intervienne au cœur de ce podcast qu'est Monstrueusement Humain. Et comment, pour moi, c'est réjouissant et rassurant de savoir que des personnes telles qu'Élodie œuvrent comme des garantes, comme des balises sur le chemin de ses futurs potentiels, des balises qui permettent d'être reconnues, des balises qui autorisent, des balises qui permettent, qui vont permettre de déployer et de soutenir les rêves que chacun peut porter en soi. Si tu as des questions concernant cet échange, peut-être des questions plus dirigées vers Elodie, tu peux passer via les liens du podcast Monstrueusement Humain ou via les liens d'Elodie qui seront indiqués en dessous de l'épisode. Et bien sûr, n'oublie pas, tu as envie de témoigner par écrit, c'est possible. Tu as envie que ta parole soit portée, je peux être la voix qui lira tes témoignages. Tu as envie d'une papote, tu as envie de parler d'un élan de vie, tu as envie de témoigner de tes suicides intérieurs, tu as envie d'une petite papote, professionnelle ou particulier, ou tu connais des jeunes qui ont envie de s'exprimer, fais-moi signe, ça sera avec grande joie. Et puis n'oublie pas de noter ce podcast à travers les plateformes dédiées à cela. Et sinon, tu parles de Monstrueusement Humain à au moins une personne cette semaine. Sur ce, bye bye!